Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Grande Flore Café. Hugues Robert.
Voilà, après une pause estivale bien méritée pour toutes et pour tous, on est très heureux de reprendre le cycle des émissions Grande Flore Café, en fait, à Grande Contrôle, en direct de la radio Grande Contrôle, le jeudi après-midi, et disponible évidemment en podcast à toute heure du jour et de la nuit. On est très heureux de continuer le cycle consacré aux éditeurs, aux acteurs de l'édition contemporaine. Et on continue donc avec l'un des plus intéressants, même si je dis ça de chaque invité, vous en doutez bien, l'un des plus intéressants de l'édition contemporaine, qui est Benoît Virault, du Nouvel Attila. Donc Benoît, bienvenue.
Bonjour.
On va peut-être, alors pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaîtraient pas le Nouvel Attila, on va faire un bref historique peut-être, ou alors partir
bref,
de
bref,
l'actualité.
C'est compliqué, puisque la maison existe depuis une dizaine d'années. Et d'autant que la maison, au lieu de suivre un droit fil depuis le début, avec une ligne éditoriale très normée, très précise et très rigoureuse, a été surnommée par certains de mes camarades la 4-4 des maisons d'édition. Notamment parce qu'elle s'est en fait à l'origine créée sous forme de revue littéraire. Nous étions deux étudiants en journalisme et leurs frères, amoureux fous des rives urbaines, des situationnistes, d'Apollinaire, de Cortassar, et des malédictions littéraires, des auteurs un peu oubliés. Et pour exercer notre talent de journaliste dont la grande presse ne voulait pas, nous avons créé en quelques semaines, je crois que le premier numéro s'est fait en 4 semaines, une revue grand format très fine sur papier ivoire, qui s'appelait déjà le Nouvel Attila et qui voulait réhabiliter les tricards de la littérature. C'était un petit objet qui valait 3 euros et qu'on distribuait à la criée sur les poubelles de la place Saint-Sulpice pendant le marché de la poésie. Et cette revue, visiblement, était assez atypique et assez personnalisé pour attirer l'attention et les encouragements de nombreux libraires. Et du coup, au fur et à mesure, à force de donner comme ça des noms, d'enquêter sur les traces, les origines, les influences oubliées du XXe siècle littéraire en particulier, les gens nous ont poussé à créer une maison d'édition. Et du coup, la revue a cédé la place à la maison d'édition en 2007, après un numéro sur Jacques Abeille. Et le premier livre de la maison d'édition fut une réédition d'un ancien intellectuel futuriste puis fasciste italien nommé Giovanni Papini. Voilà, c'était le premier livre. Aujourd'hui, il y en a une soixantaine, peut-être un peu plus, peut-être 70 ou 80 en 12 ans, avec trois grandes époques. L'époque des rééditions, l'époque des traductions de géants européens de la littérature peu connus en France, tels Edgar Hilsenrath, Goliarda Sapienza, Ramon Sender, un auteur de la guerre civile espagnole. Et puis en 2014... on a franchi un grand cap, on a commencé à publier aux rentrées littéraires, sur les périodes phares du marché, des jeunes auteurs français. Alors on en avait toujours fait, mais on les glissait un peu dans les coins parce que soit on manquait de confiance en nous, soit c'était des auteurs au tempérament vraiment un peu barré. En 2014, on a connu un succès assez ravageur avec le Debout payé de Gauze, premier roman d'un auteur franco-ivoirien qui s'est vendu à 48 000 exemplaires et qui a vraiment marqué les esprits. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, j'étais l'éditeur de Papini, après j'ai été l'éditeur de Fuck America d'Hilsenrath. Et maintenant, visiblement, je suis l'éditeur de Debout payé.
Alors, ce qui est assez fascinant dans le parcours éditorial de Nouvel Attila, c'est effectivement, on va y revenir tout au long de cette émission, c'est un éclectisme, et un éclectisme déterminé, gigantesque, qui s'exprime effectivement dans les trois époques ou dans les trois axes que tu indiquais, et qui font que des auteurs, au départ, qu'on n'imaginerait pas rapprochables ou rapprochés, se retrouvent effectivement dans la même maison et défendus avec la même passion. Donc, moi, j'avais cette curiosité, en fait. ce goût, cette envie d'aller, la première chose, hein, d'aller retrouver finalement, c'est, comme tu le disais très joliment, ces tricards de la littérature. Comment c'est venu et quel a été le premier d'entre eux qui t'a illuminé ?
Je crois qu'il y a un point commun, d'abord sur la démarche littéraire ou culturelle à la base, qui unit les uns et les autres, c'est un goût des marges et des choses pas évidentes, un goût d'aller chercher par-delà les apparences et l'immédiateté, et une certaine facilité, quelque chose de nature à nous surprendre. Et ça, c'était à la base de mes envies de réédition, de mes envies d'explorateur ou de spéléologue, comme c'est aujourd'hui à la base de mon défrichage sur des manuscrits que personne n'a jamais lus. Et on le retrouve dans le goût pour la maquette et la fabrication. J'aime préparer mon lecteur à être aussi surpris en ouvrant le livre que je l'ai été en ouvrant le texte. On aime réfléchir à des environnements, à des paysages globalement cohérents.
Je vais juste mentionner, mais pour illustrer ce que tu dis, parce que moi, c'est une des choses qui m'avait frappé hein, dans le parcours effectivement déjà long hein, du Nouvel Attila, qui allie à la fois, c'est une réédition, mais une réédition d'un texte à ce moment-là, non pas nécessairement oublié, mais en tout cas épuisé et indisponible, et dont le travail graphique de maquettage, de mise en page et d'intelligence de la situation du texte le transforme en quelque chose de presque radicalement nouveau, et c'est bien entendu le dictionnaire Khazar de Milorad Pavic. Qui a été une aventure incroyable.
Ouais, c'est vraiment un des livres emblèmes de la maison d'édition parce que c'est celui qui formellement va le plus loin et par le format et par le détail et la finesse de la conception. Donc faut d'abord saluer la graphiste Gabrielle Cause dont c'était à l'origine un projet de fin d'études que l'une de mes stagiaires a repéré en glanant sur internet et qui est devenu un des livres de Noël importants de la maison d'édition et qui a aussi raccroché, il faut le dire, au moment où on était surtout identifié aux Français, qui a raccroché les wagons avec la base de la librairie qui nous avait découvert et soutenu au départ. Le dictionnaire Khazar de Milorad Pavic, c'est un texte du début des années 80 par un des deux géants de la littérature serbe qui avait été publié en France par Pierre Belfond. Vraiment sur un coup de tête, par confiance, comme souvent, comme on est une galaxie comme ça d'éditeurs qui faisons d'abord confiance à l'humain et aux intuitions. Et la traductrice Maria Bejanowska, qui débutait, c'était son deuxième projet, lui avait apporté ça. Belfond avait acheté les droits pour une petite somme, je crois 20 000 francs à l'époque. En fait, le lendemain de son acquisition, un auteur que personne ne connaissait. Il partait à Francfort au salon international du livre et il revendait les seuls droits allemands pour la même somme de 20 000 francs. Il était rentré dans ses frais en 24 heures. Il a vendu ce livre à 30 000 exemplaires. Le livre a été réédité, a connu plusieurs éditions, notamment dans leur version masculine et féminine, puisque l'auteur en avait imaginé deux versions. Avant de connaître quelques périodes d'épuisement pendant une dizaine d'années, et puis qu'on ressurgisse. Typiquement, c'est un livre que tout le monde aurait pu faire, mais que personne ne faisait. On aime bien aussi ne pas se poser trop de questions et parfois aller vraiment au coup de cœur. Donc le livre est, formellement, le livre est un très grand format, très au-delà du format roman habituel. La couverture est constituée et découpée de trois formes rectangulaires qui laissent apparaître une forme de cadavre exquis dessiné. Il y a une reliure japonaise qui fait qu'il n'y a pas de dos matériel. Ce sont les coutures et le dos des pages qui restent apparents avec un très joli fil de couleur. Et puis la grande nouveauté du livre qui raconte donc l'exil et la disparition du peuple Khazar à travers des sources toutes plus improbables les unes que les autres, c'est qu'en fait certains chapitres de ce roman en forme de dictionnaire, Pavic l'avait composé, avait composé les chapitres sous forme de chapitres de dictionnaire et les avait classés par ordre alphabétique, ce qui permettait d'une langue à l'autre de ne pas le lire dans le même ordre et que chaque lecteur puisse s'approprier son exemplaire. Eh bien la grande intuition de la graphiste, ça a été de regrouper les versions chrétiennes, juives et musulmanes de ces différents chapitres sur une même page, ce qui donne un des rares exemples en fiction et en prose de lecture simultanée. Voilà, c'est un rêve qu'avait tutoyé les auteurs de Calligramme ou Jacques Roubaud dans son grand incendie de Londres, et le dictionnaire Khazar offre cet horrible dilemme de savoir si on va lire chaque chapitre l'un après l'autre ou si on va les lire les trois en même temps.
Absolument. En tout cas, c'était une très très belle réussite qui illustre en effet un des points extrêmes peut-être de la maison. Un autre, en fait, que j'avais très envie... Bon, tu l'as évoqué, parce qu'effectivement, on va certainement pas s'en débarrasser, mais c'est vrai que, comme c'est probablement, je crois, le plus gros succès à date, peut-être, de la maison, donc de Boupeyer, donc tu es devenu l'éditeur de Gauze. Parlons de Camarade Papa, enfin, donc ce deuxième roman, déjà... donc qui est sorti il y a maintenant un an.
Exactement, hein, un an.
Et qui montre d'emblée que voilà, avec Gauze, W. Attila n'est pas l'éditeur d'un coup, en fait, une fois, mais qu'on a bien un grand auteur, en fait, qui est là devant nous, quoi.
On demande souvent ça aux écrivains auteurs d'un premier grand succès. On se demande si ce ne sont pas l'auteur d'un seul livre. Et la question a été beaucoup émise à propos de Boupeyer, qui a été présenté parfois par certains médias télévisuels comme le roman du Vigile, et où on percevait peut-être un pitch suffisamment fort. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles il a fonctionné. Et on se demandait si le styliste irait au-delà. Sauf que Gauze, en fait... Gauze a abordé très tardivement l'écriture, mais il a réfléchi à des formes toute sa vie, et en fait, il a à peu près 20 idées de romans dans la tête en permanence, et puis il faisait de la photo, il faisait des journaux, des magazines, des critiques, des chroniques, et en fait, quand il a abordé l'écriture, il avait très clairement le cheminement de son œuvre romanesque, qui aura toujours un postulat et un point de départ autobiographique, mais très largement enrichi, transposé, avec le choc d'autres réalités. Donc effectivement, de Boupeyer narrait à travers son expérience de vigile l'itinéraire des hommes d'une famille ivoirienne dans leurs allers-retours permanents entre la France et la Côte d'Ivoire, et Camarade Papa narre le face-à-face à un siècle d'écart entre un jeune colon, un jeune commerçant de l'armée française, enfin associé à l'armée française à la fin du 19e siècle, parmi les premiers blancs qui établissent des comptoirs commerciaux en Côte d'Ivoire, et puis un enfant d'immigré à Amsterdam au début des années 80, élevé dans le culte de Kim Il-sung, et qui a appris à lire dans l'autobiographie de Kim Il-sung. Et du coup, c'est encore un livre qui repose sur deux jambes, un livre en forme de miroir. Et voilà, Gauze étant quelqu'un qui ne se revendique d'aucune patrie, apporte forcément un regard des plus décalés sur toutes les réalités qu'il approche. Et puis, c'était intéressant d'avoir une narration et puis un style aux antipodes de Boupeyer. Là où Boupeyer était dans l'aphorisme, Camarade Papa est en effet dans la genèse, dans la grande histoire, dans le roman historique, parfois presque balzacien, avec des échos à la vie devant soi d'Émile Ajar. Et c'est donc assez fabuleux de pouvoir travailler sur des matières aussi mouvantes et des surprises aussi régulières. Je remercie vraiment mes auteurs de m'amener comme un punching ball d'un endroit de la prose à un autre.
Alors, un autre auteur, alors très différent, et qui nous permettra peut-être d'aborder, puisque là on a abordé la réédition, le jeune talent donc qu'on découvre avec Gauze, et enfin, parlons des traductions. Moi, j'avais été fasciné par Christopher Boucher. On va en parler, mais ça me permettait aussi de te poser la question, parce que c'est une chose qui apparaît notamment sur le site du Nouvel Attila, c'est l'importance dans ton univers en fait d'éditeur de cette tribu formelle et informelle d'éclaireurs, de passeurs, de gens qui t'apportent en fait. Des envies, des choses parfois un peu obscures.
Je suis assez content de cette question. Parmi les petites mains des maisons d'édition, Dieu sait qu'il y en a une qu'on n'évoque jamais, c'est l'apporteur de projets. Alors, on consent à la rigueur à parler, à mettre en valeur, à valoriser à travers des prix ou des mentions spéciales les traducteurs, de temps en temps les correcteurs, de temps en temps, comme toi dans ton émission, les éditeurs, mais de temps en temps, pour s'amuser de leur CV sur Facebook, les stagiaires. Mais alors, je n'ai jamais vu de sujet consacré aux apporteurs de textes et aux apporteurs de projets, alors que dans ma conception du métier, c'est en fait ce qui m'a poussé à être éditeur. Et si j'avais pas été éditeur, j'aurais sans doute été programmateur de cinéma ou quelque chose du style, c'est cette passion du partage, cette espèce de lueur qui apparaît dans mes yeux quand je découvre un texte. Mon premier plaisir, c'est l'idée, le plaisir que je vais avoir à le partager, à le faire découvrir à des alter ego, ou alors à convaincre d'autres que c'est un trésor. Et du coup, dès l'époque de la revue, en fait, les revues se construisent toujours par des collectifs. les revues construisent fatalement une espèce de société secrète autour d'elles, les rééditions encore plus. Et en fait, dès les débuts de la maison d'édition, on a fonctionné un peu. Alors, moi, j'ai un peu voulu cultiver cet imaginaire de la bande, même si la bande, à la base, c'était 3-4 copains et le groupe était vraiment très, très soudé et très restreint. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours revendiqué et fondé mon travail aussi sur cet échange avec les anciens stagiaires restés lecteurs, les traducteurs apportant aussi des projets pour un autre compte, les libraires conseillant des livres épuisés parce qu'on leur a demandé 3 fois dans la journée et qu'ils ne le trouvent plus. J'ai aussi poussé certains de mes contacts à traduire, et c'est le cas de Théophile Cerciron, en fait, qui lui voulait devenir éditeur, qui n'avait pas a priori spécialement pensé à traduire. Et en fait, au vu de la qualité et de l'originalité des fiches de lecture qu'il me remettait, je l'ai vivement poussé à aller au bout de sa démarche et à s'emparer des auteurs qu'il me conseillait, comme Christopher Boucher, auteur de « Comment élever votre Volkswagen ». Et plus tard, Théophile a également traduit « The Only Ones » de Carola Di Bell. Et voilà,
tout à l'heure.
Participer au travail sur les mémoires de singe Cheetah dans Moi Cheetah de James Lever et du contorsionniste de Craig Clevenger, dont un deuxième livre sortira l'année prochaine. Donc ces passeurs jouent un rôle indispensable, d'autant qu'ils ne sont jamais nommés, mais c'est avec eux qu'on s'amuse, c'est avec eux qu'on élargit les horizons, c'est avec eux qu'on va défricher des nouvelles langues. Et puis il y a quelque chose d'un peu plus peut-être malaisé à rappeler, c'est que je ne suis pas un expert en langue étrangère, en tout cas en apprentissage et en usage de langue étrangère. P. Oman de Christian Bourgois, dont on dit qu'il n'avait jamais lu un livre en anglais, mais moi, pour la littérature étrangère, j'adore faire confiance à autrui, et j'adore me baser sur des retours de personnes qui connaissent suffisamment le catalogue pour se mettre à ma place et qui vont être capables de me dire, moi, je n'ai pas aimé ce livre pour telle et telle raison, mais je pense que vous, chez Attila, vous l'aimerez pour telle et telle raison. Et ça prouve un recul et un au-delà de la réflexion assez pertinent et assez puissant pour pouvoir leur faire confiance et rentrer à leur tour dans leurs esprits. Et après tout, n'est-ce pas le travail de l'éditeur que d'anticiper et de se mettre dans la peau du lecteur quand il recevra un livre d'un auteur inconnu?
Alors, puisqu'on parlait de Théophile Cerciron, donc qui est l'un de ces précieux éclaireurs, donc traducteurs et découvreurs, en fait, effectivement, de choses dans des domaines qui sont pas ceux que toi tu parcours régulièrement, enfin, alors pour des raisons linguistiques ou autres.
Un domaine de l'avant. Alors, c'est peut-être moi, je le définirais comme un domaine de l'avant-garde américaine, même si Théophile reste vraiment strictement à l'intérieur du cadre romanesque. En tout cas, il a vraiment creusé le sillon d'une littérature assez noire, mais qui s'intéresse au soubassement de l'humain et à la thématique de l'identité, avec des jeux formels. Voilà, des jeux formels, par exemple, moi, que je retrouve aujourd'hui chez Denise Cooper, auteur découvert grâce à Kevin Lambert, ou chez le génial Scott McLanahan, l'auteur de Crapalachia, paru chez Gamborakis, et dont Théophile va traduire l'œuvre complète. Ouais, il y a une redéfinition du roman noir, mais sans meurtre, juste axé sur l'identité, les troubles de la mémoire et les troubles de la famille.
Alors une redéfinition du roman noir, et on a aussi donc cette curiosité assez sublime, quand on y pense, de cette autrice donc qui est avant tout, on peut le dire, l'une des plus grandes journalistes rock des années 70, soit 80, et notamment l'une des premières commentatrices avisées du punk rock new-yorkais, et qui, après des années et des années de production, de critiques et de nouvelles hein, dans un certain nombre de journaux américains, écrit donc à un âge qui commence à être gentiment avancé un roman de science-fiction, d'anticipation, un roman d'une éclatant et qui paraît donc aux États-Unis chez un petit éditeur indépendant.
Tout Dollar Radio.
Voilà, donc
ça ressemble beaucoup au Nouvel Attila. Ils font à la fois de l'américain et de la traduction. Ils sont deux, ils ont une librairie.
Et donc là, comment Carola Di Bell, The Only One, se retrouve sur la table du Nouvel Attila?
Ben dans la continuité de ta question précédente, par le travail de longue haleine et fidèle à lui-même de Théophile, qui scrute en fait. Théophile a pas mal voyagé. Il a travaillé chez Max Winnies aux États-Unis, qui était l'une des maisons phares à notre époque, notamment pour Monsieur Toussaint Louverture, qui a beaucoup contribué à faire connaître ses maquettes, ses revues, ses choix éditoriaux en France. Mais il a également travaillé en Norvège. Et en fait, partout dans le monde, il continue à suivre l'actualité des éditeurs américains et des revues américaines qui lui paraissaient les plus novateurs. Et en fait, il s'est vraiment abonné à... et en plus, autant sur le plan éditorial que sur le plan commercial. Et du coup, Tout de la Radio, il les a vus quasiment naître. Et après avoir lu 2 ou 3 textes qui vraiment lui ont tapé dans l'œil au sein de ce catalogue... que je ne nommerai pas parce qu'ils sont toujours en lecture. Il a vraiment bondi sur The Only Ones Et moi, je crois qu'un agent, voilà, et je pense qu'en plus, par derrière, un agent m'en a reparlé à Paris, une fois, deux fois, trois fois. Et quand Théo a fait son premier essai de traduction et que j'ai vu l'intensité du travail sur la langue, c'est un roman donc consacré au clonage, à une société post-pandémique, une Amérique ravagée par les épidémies, où une mère et sa fille surnagent dans un monde en totale déliquescence, réduit à une forme de totalitarisme des quelques administrations subsistantes. Mais c'est aussi un roman fondé sur une distorsion profonde de la langue et qui imposait au traducteur une récréation totale voilà, à l'égard du coup d'un Émile Ajar en France ou du travail qu'adoraient faire Claro ou Bernard Höpfner sur certains de leurs auteurs.
Et qui en profite au passage pour réinventer la notion couramment admise de narratrice non fiable. Puisque c'est d'une façon très subtile, en fait, que l'héroïne, parce que c'est une héroïne, hein, à part entière de The Only Ones, nous raconte ce qu'elle vit, ce qu'elle voit, ce qu'elle pense. Et c'est assez extraordinaire quand elle nous confie, en fait, que non, ça, je vais pas vous le dire.
Ben c'est un truc, c'est à la fois c'est hyper romanesque et effectivement, en même temps, hyper subversif et voilà. C'est le portrait portrait d'une époque et d'une Amérique et d'une espèce de morale rongée de toutes parts.
Alors pour la traditionnelle pause musicale en fait au cœur de l'émission, on va en profiter pour écouter donc un groupe qui fut l'un de ceux découverts par Carola Dibel donc en tant que critique rock dans The Village Voice. C'est un album de 1975 Marquee Moon par le groupe Télévision. bien, on reprend, on continue l'émission avec une petite question à propos d'une particularité. Alors, je ne sais pas si elle est unique, mais en tout cas, elle est saisissante du nouvel Attila, dont l'un, justement, des confrères proches est passé dans cette même émission il y a quelques mois, David Meulemans, des Forges de Vulcain. En effet, le nouvel Attila s'inscrit au sein d'un collectif éditorial ou d'éditeurs.
Et c'est quelque chose de rare, de vraiment rare, et dont a priori ne peuvent se rendre compte que les professionnels du secteur, puisqu'on a l'habitude de les rencontrer en bande. Le nouvel Attila appartient depuis 2014 et depuis le tournant pris vers la littérature française, un collectif d'éditeurs indépendants qui regroupe aujourd'hui autour du pivot des éditions de carrière les éditions Plein Jour, les éditions aux Forges de Vulcain, les éditions La Ville Brûle et les nouvelles éditions Galahad animées par Emmanuel. Et du coup, voilà, c'est un collectif qui fonctionne par réunion régulière, mais aussi par tournée régulière. On va dire que le nœud commun du collectif, c'est une promotion, une communication commune. Donc généralement, on a l'habitude de lire, peut-être pas tout le catalogue, mais au moins les livres à enjeu, les coups de cœur des uns et des autres. Et puis on est capable, quand on fait une tournée libraire à Toulouse, à Clermont-Ferrand, d'emmener les bouquins, d'emmener les coups de cœur et d'en parler comme si c'était nos livres. Et on fait pareil dans les rédactions. Et ça, c'est quelque chose qui marque énormément les esprits et l'imaginaire, parce que c'est très rare, cette mutualisation. On vit quand même dans un milieu souvent réputé d'ego assez fort, et où une fois qu'un éditeur a passé une demi-heure à expliquer combien son livre était le plus grand de l'histoire de l'humanité, il lui reste peu de salive pour expliquer qu'en fait, il a aussi apprécié la lecture des copains. Et donc, on estime que cette manifestation, ces apparitions communes, nous rendent plus forts et aussi ancrent la nécessité du collectif dans un temps de crise réputée toujours plus grande. Donc, j'ai toujours l'impression, moi aussi, qu'un livre conçu et pensé à deux et avec un zeste de contradiction va être meilleur qu'un livre conçu tout seul dans son coin. C'est important en termes de stratégie, de conseils. Parfois, ça peut être des conseils sur des choix de personnes, des choix de traducteurs, des méthodes de travail. Parfois, ça peut être une manière de tester un titre, une couverture, une quatrième de couve. Parfois, ça peut être un conseil sur une date de publication. Et toujours d'une manière sans doute plus proche et plus intime que si c'était l'équipe des commerciaux qui donnait ce conseil. Et par exemple, je sais qu'un auteur qui te tient à cœur, Hugues, à toi et à la librairie, Jérôme Bacelli, était un des livres qui devait inaugurer mon programme quand j'ai rejoint ce collectif en 2014, mais que je pensais sortir mon américain en pole position, Christopher Boucher, et puis le français quelques semaines après. Et Stéphane Carrière m'a dit: Benoît, bon conseil, mets ton français en tête, parle-en dans tous les médias. Si ça marche pas, ce sera vraiment pas très grave, mais si jamais c'est un succès, ça te rendra d'immenses services pour l'avenir. Et du coup, le succès n'est pas arrivé avec Aujourd'hui l'Abîme ou avec Carrière de Sable, mais il est arrivé dès le deuxième français avec Debout Payé. La prédiction était juste.
Alors j'en profite à propos de ce collectif pour faire une micro-page publicitaire, en fait, puisqu'on aura la joie d'accueillir le 27 septembre, ici même, à Ground Control, donc sur la Grande Seine, dans le cadre de la journée Carte Blanche à l'Autre Quotidien, qui conclut la quinzaine de la pop culture. On aura la joie de recevoir La Ville Brûle, en fait, qui fait paraître un superbe livre qui s'appelle La Science dans Alien. Et donc, n'hésitez pas à venir nombreuses et nombreux ce jour-là.
Ils sortent aussi des inédits de Mimi Cracra, et j'aime autant l'un que l'autre.
Non, il y a un éclectisme chez La Ville Brûle, effectivement, qui se compare par certains aspects à celui du nouvel Attila. Alors, on a parlé de Jérôme Bacelli, un autre auteur, en fait, dont je voulais toucher un mot rapide, parce que l'heure tourne déjà à toute allure. C'est un texte très curieux que tu avais fait paraître de Benoît Vincent, Genové. Qui moi m'a fasciné ce texte. Je voulais savoir comment il était rentré lui, parce que c'est pas un roman cette fois.
Non, mais Benoît c'est un des auteurs vraiment réguliers de la maison, puisqu'on a sorti deux textes. On avait commencé par son premier roman Farigoule Bastard, qui était l'épopée d'un berger qui essayait de quitter la Drôme pour monter à Paris, sauf que à la première page du livre il perdait sa mule. Et puis c'était un roman dans une prose poétique tout à fait enchanteresse qui réinventait quelque part le patois de la Drôme provençale. C'était vraiment une expérience linguistique et formelle assez belle. Et puis il y a eu ce deuxième livre, Genove, qui est issu d'une transformation et d'une retraduction sur le papier d'un livre qui était paru et avait été pensé pour Internet, puisque Benoît, qui a fait ses études et grandi autour de Montélimar, un peu comme un ermite, déplore-t-il, a beaucoup travaillé sur la sphère internet, beaucoup publié chez Publi.net. Je crois qu'il dirige une collection aujourd'hui d'essais chez Publi.net. Et Genové était un récit combinatoire, le récit d'une ville, le récit une autogéographie, le récit d'une découverte personnelle de l'Italie et de la Ligurie, le récit d'une histoire urbaine, d'une histoire sensible. Et en fait, c'est le livre de toutes les combinaisons et de toutes les expériences possibles brassées sous le ciel italien, avec vraiment une peinture totale en fait à 1000 degrés de cette ville. Pour moi, c'est vraiment un peu la version essai de Marel, du Marel de Cortázar, avec un roman éclaté, kaléidoscopique, chose qu'on a rendue dans la maquette pour traduire les virtualités et les pages secrètes du web, avec un double système de notes latérales et puis marginales en bas de page.
Alors, avant de revenir en fait donc sur l'actualité immédiate et sur la rentrée littéraire du Nouvel Attila, un tout petit détour cette fois par le passé à nouveau, et j'aurais aimé que tu nous dises un mot du prix Nocturne.
Ben oui, j'en ai volontairement fait l'omission en racontant l'histoire de la revue tout à l'heure, mais en fait c'est le déclic, le prix Nocturne, c'est le déclic qui a transformé la revue en maison d'édition. Donc je passais pas mal de temps à farfouiller dans l'histoire et les coulisses des maisons d'édition du passé, notamment dans la littérature fantastique, grâce aux amis de la revue Le Rocambole. Et puis j'ai un jour entendu parler de cette initiative de Roland Stragliati et de l'équipe de la revue Planète, qui en 1960 ou 1961... par adoration pour Léo Perutz, un écrivain dont il me semble me rappeler qu'il est autrichien, mais peut-être je me trompe, ont décidé de lui remettre sur un coup de tête, mais vraiment d'une manière potache, ont décidé de remettre un prix au marquis de Bolibar, et puis ils ont décidé de baptiser ce prix Nocturne en invoquant les puissances de la nuit, et donc ils ont un prix, il restait 30 exemplaires, ce qu'on appelle une queue d'édition chez un vieux libraire de Saint-Michel, de l'édition Albin Michel d'avant-guerre, et donc ils ont apposé un bandeau violet, prix Nocturne, ils se sont réunis, ils ont dû ouvrir une bouteille, chose qu'on aurait faite également à notre âge et à leur place. Et le prix Nocturne était lancé. Il n'y a eu que 3 éditions. Voilà, la deuxième année, il récompensait Hugues Rebel pour les Nuits chaudes du Cap Français. Et puis, il a disparu corps et bien dans la trappe de l'histoire jusqu'à ce que Jean-Luc Buard m'en parle. Moi, ça m'a séduit. J'ai eu l'impression de voir concrétiser 40 ans avant le projet de ma revue. Et puis, j'ai appelé les copains et j'ai dit, on va le refaire avec les mêmes armes, c'est-à-dire peu de temps et beaucoup d'énergie. Et le prix Nocturne, il y a donc eu entre 2007 et 2017 10 éditions. Le principe, c'était un livret épuisé dans le commerce, d'inspiration insolite ou fantastique, à choisir sur une liste de 7 livres par un jury de 7 personnes représentant un peu tous les horizons du monde éditorial, des libraires, des revuistes, des dessinateurs, des bibliothécaires, des écrivains. Et puis c'était un jury entièrement tournant, chose que les auditeurs attentifs savent bien qu'elle est rarissime et peu appréciée en France. Je crois qu'à part le jury Wepler, il n'y en a vraiment pas beaucoup de ce type. Ça a été vraiment une superbe expérience. D'abord parce qu'on a fait, on a donné une minute de célébrité à quelques 70 livres qui aujourd'hui sont de nouveau réédités. L'Arbre Vengeur et Kombouraki ont pas mal rendu hommage, consciemment et inconsciemment, aux listes du prix Nocturne. Je pense à La Marraine du sel de Maurice Fourré, à L'œil du purgatoire de Jacques Spitz, à Neige d'Anna Cavan. C'est vraiment une bibliothèque parallèle, souterraine, satellite, qui a belle allure. Et voilà, on s'est engagé à rééditer ou à faire rééditer le lauréat par un éditeur ami. Je crois qu'une moitié d'entre eux figure aujourd'hui au catalogue du Nouvel Attila. Voilà, notamment Giovanni Papini, Ramon Sender, les cobayes de Ludwig Vatsulik. Voilà.
Alors, tu as une autrice qui récemment a fait à sa manière une autre forme d'hommage au prix Nocturne.
En fait, l'un des livres de la rentrée, et puis que Karim a consacré, puisqu'il l'a invité pour sa soirée, pour sa première soirée de lancement cette année, s'appelle Adelph. Donc je loue ici le bon goût d'Isabelle Flatten, que je vais retrouver demain au Livre sur la Place à Nancy. Adelph est l'histoire d'un livre. Et ce livre, c'est pas n'importe quel livre, c'est le prix Goncourt 1920. Et le prix Goncourt 1920, malheureusement, c'est presque n'importe quel livre, puisque passant après Proust, il est totalement oublié. Donc je je veux rendre hommage à Nen, d'Ernest Perrochon et Isabelle Flatten d'avoir fait ce joli cocktail. Adelph raconte en fait l'impact d'un livre et d'une lecture dans un petit village de province en 1920 sur la population du village et imagine les bouleversements introduits par cette lecture sous les jupes des paroissiennes, des plus timides aux plus émancipées, mais aussi sous les jupes du pasteur, à qui Gabriel offre un exemplaire du livre annoté, et ce qui va susciter une insomnie prolongée du pasteur qui, pendant des jours et des jours, va se demander le message qu'on a bien voulu lui faire passer. Alors, les premières heures, il pense à un message d'ordre spirituel, et puis devant les sourires et les mimiques appuyées de Gabriel, il est bien obligé de se rendre compte qu'il y a peut-être un message plus intime ou plus humain. C'est un roman aussi, je dois avouer que c'est une lecture extrêmement gratifiante pour moi, parce que c'est un roman qui se présente comme un roman psychologique, disons-le, assez linéaire, et c'est un roman dont on n'a pas l'habitude. J'espère que ça choque pas Isabelle, parce que je répète ça à tour de bras. C'est vraiment, pour le coup, un roman typiquement qui élargit mes horizons et qui va à rebours de mes attentes et de mes désirs, parce qu'on est plus souvent associé à de l'atypique ou à de l'expérimental. Et là, c'est un roman qui peut vraiment être mis entre toutes les mains. J'ai pas mal de journalistes et de blogueurs qui commencent leur papier en disant voilà un livre qu'on n'attendait pas au Nouvel Attila, et en même temps voilà un livre qui confirme heureusement l'éclectisme de la maison.
Oui, puis qui je pense traite quand même, justement, même si c'est par des biais qui sont pas les biais habituels jusqu'ici du Nouvel Attila, une question qui hante le Nouvel Attila, qui est qu'est-ce que le livre fait aux lectrices et aux lecteurs, quoi.
Ouais, c'est vrai. Et réciproquement, qu'est-ce que le lecteur fait du livre ? Non, mais j'adore cette idée que mon idéal professionnel serait de pouvoir produire que chaque exemplaire du livre soit différent.
Alors, tu as un autre texte donc, qui est déjà paru et qui, donc, si je ne me trompe, est déjà sur quelques listes de prix, ce qui est toujours agréable.
Bah, tu as le bon goût, Hugues, de m'inviter une semaine privilégiée. D'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté d'enregistrer cette émission en direct de la Fontaine Médicis, en plein milieu du Jardin du Luxembourg. Il fait de nouveau frais, c'est un signe peut-être des cieux. Et effectivement, pour la première fois de son histoire, la maison se retrouve citée sur la première liste du prix Médicis grâce à Querelle de Kevin Lambert. C'est un roman québécois. C'est le deuxième texte de l'auteur, mais c'est le premier publié en France, qui a aussi été repéré par les prix du Monde, le prix Sade, le prix Vepler, et qui est vraiment un météore. Querelle, c'est l'histoire d'une grève dans une scierie du nord du Québec, au bord du lac Saint-Jean, animée, entre autres, par des homos, des femmes et des indiens, et d'une grève qui passait quelques mois d'une solidarité ouvrière sans commune mesure face aux saloperies patronales locales, va finalement cristalliser les oppositions et découler dans une apocalypse généralisée. Moi, j'y retrouve un peu le synopsis du Seigneur des Porcheries, mais je sais, pour avoir discuté avec lui, que Kevin Lambert ne l'a pas lu, et c'est d'autant plus jouissif de retrouver des points de convergence ou des points de divergence entre le grand épique américain et puis le très jeune québécois transgressif. Voilà, c'est un très jeune auteur. Alors, il a 27 ans aujourd'hui, mais il l'a commencé à 21 ou 22 ans. Il a énormément lu. On a l'impression qu'il a lu tous les romans, tous les essais, tous les français, tous les francophones, tous les étrangers. Il a digéré ça dans cette tragédie antique somptueuse, très trash, corporellement, linguistiquement, formellement. C'est un roman baroque qui ne ressemble à rien, mais transcendé par une écriture et des détournements poétiques où vous reconnaîtrez les influences de Lautréamont, Rimbaud, Guibert, Genet, Joseph Vinclair, Denis Cooper, dans un flux panique très précieux. Voilà, le livre s'est déjà retrouvé en rupture deux fois de suite en librairie depuis la sortie le 23 août. Il a trouvé sa critique. C'est un des auteurs qui a vraiment rencontré les critiques les plus creusées. Moi, depuis que j'ai eu quelques beaux succès critiques avec Ilsen Rath, avec Jacques Abeille, avec Gauze, je dois dire que j'ai peu rencontré le choc et les ouvertures critiques que nous ont offert Le Monde, Télérama ou En attendant Nadeau, pour le premier mois de la sortie. Et profitez-en, parisien. Kevin Lambert a 4 rencontres à Paris entre le mardi 17 et le mardi 24 septembre. Et il participe à des festivals à Passaporta à Bruxelles, aux Bibliothèques Idéales de Strasbourg ce week-end, et la semaine d'après, à Livre dans la Boucle à Besançon.
Voilà, bah peut-être pour conclure donc cette émission, merci beaucoup Benoît donc d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours passionnant pour nos auditrices et nos auditeurs d'entendre en fait la passion communicative qui passe dans ce micro en fait. Je crois que c'est une des caractéristiques de celles et ceux qu'on a eu dans cette émission donc depuis quelques mois.
Construit une forme de chaîne après avoir pris soin d'en ôter les boulets.
Il y a vraiment donc cette envie, et puis c'est intéressant de voir comment effectivement la primauté au texte se conjugue et se truc avec des réalités qui sont celles d'un métier, d'un marché. C'est aussi ce qui nous intéresse. Et donc on va finir en écoutant cette fois un hommage indirect en fait à Benoît Vincent, puisque tu le mentionnais, il publie aussi dans d'autres maisons, et donc il a commis chez Publinet il y a quelques années un hommage pour le moins ambigu à Mark Knopfler, et donc on va écouter Sultans of Swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his bass.
are the Sultans. We are the Sultans.